Aujourd'hui, Pop & Co se passe à Détroit, Michigan. La ville d'Iggy Pop et des Stooges, la ville de Jack White et des White Stripes, la ville du rappeur Eminem et de la techno. Mais ce matin dans Pop & Co, Détroit est la ville de la musique soul avec le label Motown. Stevie Wonder, Marvin Gaye, The Supremes, toutes et tous chez Motown. 1959, un Afro-Américain du nom de Berry Gordy crée une maison de disques indépendante et familiale dont les productions vont se faire entendre dans le monde entier. Motown, ou l'histoire de la production musicale. Motown, ou l'histoire de l'Amérique noire et blanche. Motown, ou l'histoire d'une ville qui connut la gloire dans les années 50, puis la crise dès la fin des années 60 et la ruine dans les années 2000. Judith Pérignon, qui se rend régulièrement à Détroit et qui vient d'y consacrer un roman, raconte que la musique n'a jamais quitté les rues, qu'elle fut, est et sera un appui pour que Détroit résiste, combatte et renaisse aujourd'hui. Ce matin, Pop & Co est Pop & Motown de 1959 à 1972, date à laquelle Berry Gordy a décidé de déménager la maison à Los Angeles. Une autre voix, et en français cette fois, ce sera celle d'Isia Higelin dans le labo de Pop & Co ce matin. Un peu avant midi, on entre au cœur de la chanson qui ouvre son dernier album, Dragon de métal, c'est le titre. Dragon de métal. Et si c'était les derniers mots de ce sommaire? Non. Bonjour, bienvenue, c'est Pop & Co.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
La radiodiffusion française présente...
La croisière continentale ou les États-Unis en long et en large. Une production du journal Parlé par Samy Simon, Michel Droit et Serge Groussard.
Nous ferons halte aujourd'hui dans une ville que l'on nomme aux États-Unis Detroit, mais que je vous demanderai la permission, pour plus de commodité et surtout pour plus de fidélité, d'appeler ce soir tout simplement Détroit, de même que je n'appellerai pas son fondateur M. Cadillac, mais plutôt M. Cadillac, si vous le voulez bien. Détroit ressemble à une ville montée sur quatre roues, dont l'artère principale serait un gigantesque arbre de transmission, où tout s'actionnerait par cylindre et par piston. À Détroit, en effet, tout vit pour et par l'automobile.
Certes, mais pas que. Même si Motown est la contraction des mots Motor et Town, ville moteur donc, le label va livrer la bande-son de Détroit en dehors des cylindres et des pistons. Une bande-son de la joie, que tu sois noir ou blanc, viens danser toute la nuit, chante Smokey Robinson and the Miracles. Et pendant ce temps...
Je vais vous emmener, si vous le voulez bien, à l'une des opérations et à l'un des spectacles les plus étonnants que l'on puisse voir chez Ford, à la chaîne de montage. L'une de ces voitures est arrivée à son point terminal. Elle a mis pour cela exactement 1h40. Le moteur est prêt à fonctionner. Elle va pousser son premier cri d'enfant nouveau-né.
Allô ? Moi, je vous entends, là, vous m'entendez ?
Voici Judith Pérignon. Elle vient de publier « Là où nous dansions », un roman comme une déclaration d'amour pour Détroit et ses habitants. Judith Pérignon y met notamment en scène les ouvriers afro-américains des usines et les musiciens de la ville.
Il y a des gens qui disent que finalement le bruit et la cadence des usines a influencé toute la musique de Détroit et pas seulement la Motown. C'est-à-dire que le boom boom, la rythmique de John Lee Hooker qui était ouvrier dans les usines vient aussi de là, la techno viendrait aussi de là. Alors après, chaque courant musical se retrouve à Détroit et est influencé par cette proximité avec l'industrie. Il y a même Wayne Kramer des MC5. Je lisais il y a quelques années une interview où il dit, je pense que, alors que c'était le MC5, était un groupe très engagé politiquement, et il disait, le syndicalisme, qui était si fort à Détroit, a beaucoup influencé le rock de Détroit. Donc la connexion entre cette identité industrielle de la ville et son identité et ses courants musicaux est effectivement importante à tisser, oui. Alors moi je pense que Motown naît à Détroit parce que notamment dans les années 50, c'est là où la population noire vit le mieux aux États-Unis. C'est d'autant plus intéressant que cette ville, dans l'esprit des gens aujourd'hui, c'est une ville en ruine. Mais il faut se souvenir que dans les années 50, ce berceau de l'automobile qui a drainé des populations du du monde entier pour venir travailler. Elle offre un niveau de vie, notamment aux Noirs américains, qui reste la classe la plus basse dans la hiérarchie raciale et sociale américaine. C'est là qu'ils vivent le mieux. Et donc évidemment, cette ville qui est déjà très industrielle, il y a un type qui s'appelle Berry Gordy qui se dit « mais il y a de l'argent à se faire avec cette musique ».
Berry Gordy Jr., afro-américain, né à Détroit le 28 novembre 1929, a écumé tous les clubs de jazz de la ville, a ouvert un magasin de disques avant de créer la Tamla Motown, qui s'appellera simplement Motown. Nous sommes en 1959, Berry a donc 30 ans. Comme la plupart des habitants de Détroit, Berry Gordy a travaillé quelque temps dans une usine d'automobile. Appliquer à la fabrication des disques le même esprit d'entreprise. Produire des chansons comme sur une chaîne d'assemblage. Créer, fabriquer, vendre. En toute logique, le tout premier tube de Motown s'intitule Money, That's What I Want. L'argent, c'est tout ce que je veux. Interprété par Barrett Strong.
The best things in life are free, but you can give them to the birds and bees. I need money.
Est-ce que j'ai le temps d'aller me faire couler un petit café vite fait ?
Je vous présente Madge, DJ, ancien co-responsable du label de rap Assassin Productions, concepteur des compilations Motor City et Motor City Volume 2, dédié au premier tube de la Motown.
Vas-y, j'arrive dans une minute, à tout de suite.
Your love give me such a thrill, but your love don't pay my bills. I need fun, that's what I want.
Le label a été créé en 1959. Qu'est-ce que ça raconte des États-Unis à ce moment-là, Motown ?
On est juste après l'avènement du rock'n'roll en termes de nouveaux codes de la culture pop, qui va permettre, en tout cas aux États-Unis, dans l'immédiat, en cette fin des années 50, de donner une visibilité plus importante aux artistes afro-américains. Le rhythm and blues, qui est un courant majoritaire chez les afro-américains à l'époque, fait partie de l'ADN du rock. Donc ça va permettre que les artistes noirs puissent être plus visibles. Et Motown arrive à cette période-là, donc d'ouverture, on va dire, dans la culture, dans la musique. La musique afro-américaine est en pleine mutation, où le rhythm and blues et le gospel vont fusionner pour donner ce qu'on va appeler la soul music. Et Motown arrive vraiment dans cette époque charnière.
Illustration. L'année de la création de Motown, en 1959, un autre label d'une autre ville, à savoir Atlantic Records à New York, publie la chanson d'un certain Ray Charles qui invente une nouvelle musique avec ceci.
Hey mama, don't you treat me wrong. Come and love you, daddy, all night long, all night long. Hey, hey, all right. See the girl with the diamond ring? She knows how to shake that thing, all right now.
Nous pourrons noter quelques similitudes avec Money, That's What I Want de Barrett Strong.
Money don't get everything is true, but what it don't get I can't use. I need money, that's what I want, that's what I want, that's what I want.
Toutes nos excuses, mais nous sommes obligés d'interrompre le flux de cette émission en raison d'un événement de première importance. Tout de suite, place à l'information.
Inter, actualité.
Mais non, nous ne sommes pas en 2021, mais le 9 novembre 1960.
John Kennedy, président élu des États-Unis. C'est le titre officiel du candidat démocrate depuis cet après-midi, depuis que les 32 mandats de la Californie sont venus lui garantir son entrée à la Maison-Blanche.
Au micro, Jean Piazza.
Kennedy est le plus jeune président élu, le premier président né au XXe siècle, le premier président catholique, le premier président à avoir servi dans la marine des États-Unis, le premier président d'origine irlandaise, le premier président dont la femme est d'origine française, et enfin, il y a bien longtemps qu'il n'y avait pas eu de nurserie à la Maison-Blanche.
France Inter.
Je vous propose de vous rendre l'antenne et si nous avions avant la fin de votre émission...
Pop & Co.
La déclaration du sénateur Kennedy.
Rebecca Manzoni.
Je vous redemanderai l'antenne.
Aujourd'hui, Pop & Co. et Pop & Motown, label de musique soul installé à Détroit, et notre programme peut reprendre son cours à présent. L'élection de Kennedy ouvre plusieurs années d'insouciance et de légèreté aux allures d'été sans fin. C'est exactement ce que l'on entend dans les productions Motown de l'époque. J'ai lu cette phrase dans Motown Soul Glamour, ouvrage signé Florent Mazzoleni et Gilles Pétard. Sans doute le mieux ces années d'espoir, c'est eux, Smokey Robinson and the Miracles. Et dans la prospérité 60s, au miracle, on y croyait. Smokey Robinson, auteur, compositeur, interprète, producteur, pilier des débuts de Motown. Bob Dylan l'a qualifié de plus grand poète vivant en Amérique. Et puis il y a sa voix méliflue et ses textes peuplés de garçons qui vous aimeront pour la vie, même si vous les envoyez bouler. Smokey Robinson invente l'alliance parfaite entre les symphonies pop et les harmonies vocales venues du doo-wop et du gospel. Les Temptations et les Four Tops nous feront planer pareil. Et puis, comme l'a dit le grand parolier américain Gary Goffin, dans les années 60, Dieu était une jeune fille noire qui chantait. Il y eut notamment The Marvelettes, et puis...
Take one!
Hi, we're the Supremes.
I'm Diane.
I'm Florence.
And I'm Mary.
Diana, Flo and Mary, trois gamines du ghetto devenues The Supremes, les suprêmes comme on dit ici. Dans son roman « Là où nous dansions », Judith Pérignon met en scène Diana Ross, Flo Ballard et Mary Wilson. Mary Wilson, dont on a appris le décès cette semaine. À un moment, elles partent toutes les trois, et avec les artistes Motown, en tournée, en bus. Judith Pérignon a imaginé une lettre que Mary Wilson écrit à sa mère une fois arrivée dans le sud des États-Unis. Judith Pérignon s'est appuyée sur les mémoires des artistes Motown pour rédiger ce passage. Page 151. L'autre jour, en Caroline du Sud, on avait enfin droit à une nuit dans un motel. Quel bonheur de décharger nos affaires, d'avoir enfin un lit, une douche, un shampoing. Certains ont enfilé leur maillot de bain et ont foncé vers la piscine. Les blancs sont sortis de l'eau aussitôt. Il y en a même un qui était prêt à appeler la police. Puis quelque chose a changé, tout à coup. Certains sont même retournés se baigner, d'autres ont disparu et sont revenus avec des papiers et des crayons. On a vite compris, la radio avait annoncé notre présence dans le coin et passé nos disques en vue du concert du lendemain. On n'était plus des nègres, mais des artistes noirs. Et ça, ça changeait tout. C'est l'histoire de trois filles qui viennent du Brewster Douglas Project, quartier ouvrier de Détroit, avant d'être les premiers visages noirs à se retrouver en couverture des magazines télé dans une Amérique raciste.
Pour arriver là, il faut vraiment ne plus ressembler à une fille du ghetto. Et il faut apprendre à rentrer dans une voiture, à croiser les jambes. Elles sont rhabillées, recoiffées. Il y a des tas de choses comme ça qu'on leur apprend. Donc on les lisse vraiment. Et effectivement, le début souvent disparaît parce qu'après, elles font oublier là d'où elles viennent, notamment Diana Ross. Il y a une interview à la télé ou américaine que j'avais retrouvée où quelqu'un lui dit « Vous vous souvenez de la petite Diana Ross du Project ?» Et elle dit « De qui vous me parlez ?» Voilà. Donc, c'est devenir une star, c'est aussi faire oublier ses origines pauvres. Et ça, c'est très américain. C'est le trio d'auteurs, compositeurs Holland, Dozier, Holland, c'est-à-dire Lamont Dozier et les frères Holland, Brian et Eddie, qui ont écrit ce morceau, comme beaucoup d'autres, pour le catalogue Motown. Quant au groupe qui accompagne les artistes maison, il s'appelle The Funk Brothers.
Attends, je vais couper, la radio, parce que là, ça va pas être possible. Un petit temps.
Voici Madge, historien de la Motown.
Berry Gordy va faire appel à la fine fleur des musiciens de Détroit. Alors, il faut savoir que Berry Gordy va s'obstiner à surtout ne mettre jamais aucun crédit sur les disques pour pas qu'on sache qui étaient ces fameux Funk Brothers. Parce que je pense qu'il avait peur, d'une part, de les voir aller jouer ailleurs. Il avait également la crainte que si les mecs commençaient à aller jouer ailleurs, il allait pas devoir les payer le même prix. Et il voulait maintenir cette espèce de... le fait que ce soit le son de cette jeune Amérique et que ce soit surtout pas personnalisé. Ça va donner lieu à des histoires, parce que bon, les mecs, pour aussi vivre, certains d'entre eux allaient faire des sessions dans les clubs de Détroit, et ça plaisait pas du tout à Berry Gordy, qui voulait vraiment avoir la primauté et l'exclusivité de ses musiciens, sur lesquels il pouvait compter quasiment 24 heures sur 24. Hein. Puis bon, c'est surtout des musiciens, au-delà de leur qualité d'instrumentiste, qui ont été très inventifs, même... par rapport aux techniques d'enregistrement de l'époque. Bah déjà, très souvent, ils utilisaient deux batteurs, ce qui était assez inédit pour l'époque, pour avoir ce sentiment de rythme et de beat super puissant. Et ils trouvaient aussi des stratagèmes. Sur Dancing in the Street, ils ont même poussé l'inventivité jusqu'à aller faire claquer des chaînes pour voitures, tu sais, quand il neige, là, les chaînes à neige, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, à les faire claquer par terre pendant l'enregistrement pour renforcer justement la puissance du beat. Mais il faut savoir que sur cette période de 59 à 72, c'est près de 70 ou 80 musiciens qui ont tourné.
Parmi les Funk Brothers, il y avait entre autres James Jamerson à la basse, Benny Benjamin à la batterie ou Joe Messina à la guitare. Ils sont tous là pour Dancing in the Street de Martha and the Vandellas. Street, Ce morceau de Martha and the Bandellas sort en 1967. Le 25 juillet de cette même année, 67, il y a évidemment une édition de la mi-journée sur France Inter.
13h, voilà. France Inter, le journal d'Interactualité Magazine, présenté par Jean-Claude Héberdé.
La situation sur le front racial aux États-Unis. C'est à Détroit, vous le savez, à Détroit dans le Michigan, que les troubles raciaux sont les plus violents. Depuis 48 heures, les scènes de guerre civile se succèdent dans tous les quartiers de la ville, pratiquement, de cette ville qui était le symbole de la prospérité des États-Unis.
Les gardes nationaux ont reçu l'ordre de tirer sur tout ce qui bouge. Déjà, on dénombre 21 morts, il y en a peut-être davantage. Dans la seule nuit d'hier, plus de 1000 personnes ont été blessées et 200 sont dans un état très grave. Les sapeurs-pompiers sont débordés, plus de 150 foyers d'incendie dans la ville. Le ciel est embrasé et le maire de Détroit a déclaré « La ville ressemble à Berlin en 1945 ». C'est assez dire l'ampleur de la révolte qui par moments tourne à l'émeute.
Un an plus tard, 1968, Martin Luther King se fait assassiner sur un balcon d'un hôtel de Memphis. Berry Gordy avait publié, sur disque, l'un de ses discours de la marche pour la liberté prononcé à Détroit en août 1963. Mais la façon dont Gordy a pris part à la lutte pour les droits civiques, c'est surtout en banalisant les silhouettes, les voix, la musique d'artistes afro-américains vendus à des blancs autant qu'à des noirs. La réussite de Gordy, c'est la figure du self-made man et de l'American Dream qui s'incarne dans un noir et dont les parents viennent du sud ségrégationniste. Gordy, ou l'ascension sociale, sans lever le poing.
Berry Gordy n'était pas un révolutionnaire. Je pense que Berry Gordy avait essayé de ménager la chèvrette chou, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas être complètement exclu de cette dynamique politique et sociale, mais en même temps, il ne voulait pas non plus aller trop loin pour pas non plus peut-être déplaire à un establishment qui l'aurait peut-être fait payer. Et il y a plein d'histoires où justement, il allait un peu à reculons dès que les artistes Motown vers 66-67 ont commencé à vouloir s'inscrire dans une démarche à ce qui correspondait à la musique américaine de l'époque, hein, avec l'influence de Bob Dylan, tout ça, et de la chanson à texte, et de sortir un peu de cette pop bubblegum plutôt gentillette. Tout le monde connaît aussi la fameuse histoire au moment en 70-71, au moment de la préparation de l'album de Marvin Gaye, What's Going On. Enfin, il acceptait pas du tout que Marvin Gaye devienne un chanteur engagé, hein. Il voulait que ça reste le sexe symbole, parce que c'était un peu ça, Marvin, ça incarnait le sexe symbole de chez Motown, et il voulait absolument pas que Marvin devienne un chanteur à texte.
Juin 1970, Marvin Gaye enregistre cette chanson « What's Going On » qui donnera son titre à un album entier. Les États-Unis sont en guerre au Vietnam, les ghettos flambent et Marvin Gaye chante « Les mères sont trop nombreuses à pleurer, les frères sont trop nombreux à pleurer. On doit trouver une solution pour ramener de l'amour là-dedans. » Après avoir été un gars aux cils d'ange dont la voix fait hurler les filles, Marvin Gaye signe un disque de morceaux protestataires tout en cultivant une esthétique du cool.
War is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Oh, picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Oh, what's going on? What's going on? What's going on? Yeah, what's going on? Oh, what's going on? Right on. Yeah.
What's Going On n'est pas le premier morceau du label Motown à parler frontalement de questions politiques et sociales, mais cette chanson se vend à 2 millions d'exemplaires et l'album sur lequel elle figure entre dans l'histoire. Après ce disque, des artistes Motown comme Michael Jackson ou Stevie Wonder auront encore plus d'aplomb pour revendiquer une indépendance artistique auprès de Berry Gordy. La Motown, elle était présentée comme une grande famille, mais des artistes, je pense à Eddie Kendricks, The Temptations, à Martha Reeves, ont dénoncé des conditions financières iniques imposées par Berry Gordy.
Dans son parcours, il a aussi bien des choses qui suscitent beaucoup d'admiration, et puis il a des côtés aussi très détestables, et sur le plan des affaires, il n'a pas toujours été grand seigneur. Dès le début, puisqu'il faut savoir que quand il a monté en 59 Motown avec sa femme Renoma, ils ont été donc, suite à un emprunt de $800 qu'ils ont fait ensemble, financer le premier 45 tours qui allait sortir sur leur label Tabla. Et le lendemain du dépôt des statuts, il a exigé de Renoma qu'elle se raye, en fait qu'elle sorte des statuts pour qu'il ne reste plus que lui comme seul propriétaire. Donc on voit que même dans la construction de son aventure, c'était quelqu'un qui était somme toute presque dictatorial, mais qui avait aussi la faculté de savoir lâcher quand il fallait lâcher. Et d'ailleurs, en matière d'indépendance artistique, il faut se souvenir que le premier artiste qui a fait état de ce vœu de d'indépendance, c'est Stevie Wonder. Mais de l'autre côté, c'est l'artiste qui est resté le plus longtemps aux côtés de Berry Gordy, puisqu'il me semble sans tromper que l'essentiel de sa carrière, voire la quasi-totalité de sa carrière, Stevie Wonder l'a fait chez Motown. Et c'est peut-être un exemple unique d'ailleurs.
De service. Inutile de nous envoyer des mails rageurs pour avoir coupé ce morceau. Un Pop & Co entier sera dédié à Stevie Wonder d'ici la fin de l'année. Quand Berry Gordy le fait signer chez Motown, on dit Little Stevie puisqu'il a 11 ans. Et c'est l'un des premiers artistes du label à avoir joué en Europe, en France et en Angleterre d'abord.
La première porte de sortie des États-Unis, en tout cas la plus marquante, c'est celle qui va amener Motown en Angleterre. Les premiers échanges entre Motown et l'Angleterre vont s'effectuer à partir de 1963. Il y a aussi un événement, un élément très important, c'est le fait que des groupes anglais à succès comme les Beatles ou les Stones vont très très tôt reprendre quelques hits Motown, ce qui va permettre de diffuser la soul music vers un public européen à majorité blanche, comme on sait qu'à l'époque La bataille est encore, pour longtemps, la bataille dans la pop musique, elle va surtout s'effectuer entre les Américains et les Anglais. Hein. On a été des spectateurs corrects, mais en tout cas, on n'était pas au front comme ces deux pays. Et le fait que l'Angleterre adopte Motown et adopte la soul, ça va irrémédiablement jouer sur la diffusion mondiale de Motown.
Par chez nous, l'un des plus grands fans de la Motown et l'un de ceux qui a le plus adapté des titres du catalogue en français, c'est lui-là, qui interviewe Diana Ross et ses Supremes.
Il y a tellement de choses à dire sur les Supremes et sur Tamla Motown que finalement je ne sais pas pour commencer. So many things to say.
Il s'agit de Claude François qui interviewe Diana Ross et ses Supremes.
On va commencer par le commencement.
Le français est une très gelée langue, mais je ne l'ai pas seulement à BTP.
Et là, après la tentative en français de Diana, Clo-Clo a fait...
Ah, wonderful, fantastic. Instead of just leaving each other like this and say bye-bye, I think the best way to leave each other and to say, not farewell, but hope to see you soon, yeah. Au lieu de dire adieu, on va se dire au revoir, et au lieu de se dire au revoir bêtement, on va se dire au revoir en chanson, one more time.
Okay.
Just let's sing a song together, Tamla Motown song, something...
Reach out
and I'll be there, why not? J'attendrai pour les Français. Et si un jour...
Non, on va pas faire ça. On va plutôt clore ce récit avec ceci. Si à la fin des années 50, Smokey Robinson inventa des symphonies de poche pour Motown, des producteurs comme Norman Whitfield et Barrett Strong ont donné une touche dépouillée et psychédélique à la soul du label. Whitfield et Strong sont aux manettes de ce titre des Temptations, Papa Was a Rolling Stone.
It was the 3rd of September, that day I'll always remember, yes I will, cause that was the day that my daddy died. I never got a chance to see him, never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home.
And when he died,
all he left us was alone. Oh, Papa was a rolling stone, my son, yeah. Wherever he laid his hat was his home.
And when he died,
all he left us was alone. Well, man. To say that Papa never watched a day in his life.
And Mama, some bad talk going around town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right.
Heard some talk about Papa doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time leeching. Dealing in debt and stealing in the name of the Lord. Mama just hung her head and said,
Madge, dont vous avez entendu la voix dans cet épisode de Pop & Co, a piloté 2 compilations consacrées au début de la Motown. Elles s'intitulent Motor City et Motor City Volume 2. Le titre du nouveau roman de Judith Pérignon, lui, c'est « Là où nous dansions ». Il a paru aux éditions Rivage. Et je vous signale 2 bibles sur l'histoire de la Motown. Motown Soul Glamour de Florent Mazzoleni et Gilles Pétard au Serpent à Plumes. Et Motown d'Adam White, publié chez Textuel. Allô ?
Ouais, je te dérange ?
Pas du tout, pas du tout. C'est Isia Higelin au téléphone et qui choisit le prochain disque de Pop & Co.
Et oui, pour le petit morceau, je voulais choisir Des rêves de PR2B. Parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer Pauline, PR2B, à l'occasion de l'Hyper Nuit de France Inter, où on a chanté La rage en dedans de mon père. Et en fait, je ne la connaissais pas. Et nous sommes tombées éperdument amitieuses l'une de l'autre. Et c'était un très beau moment que de la rencontrer. Donc, voilà. Et j'aime ce qu'elle fait également. Donc, voilà.
PR2B, un nom de code pour Pauline Rambaud de Barallon. Et ce qu'elle fait s'intitule Des rêves.
Je suis dans la vie comme dans mes rêves. Et quand je crève, je suis le cri de qui me croit ou qui me prie. Je suis comme ça dans la vie. Je renie jusqu'à mon sang et je ne sens plus qui je suis. Il n'y a plus d'innocents. J'aimerais dire que je sais ma route et que je ne doute que quand j'ai bu. Mais vu que je suis à nu, plus personne avec qui ruminer mes envies. Et vivre sans avoir l'air, cher comme un courant d'air. Derrière la vie, mon frère pleure de me voir si triste. Dans mes rêves, ils ont tout pris, tout pris. Le monde crève, mais on sourit. C'est un rêve, ou ma folie, folie. Les gens rêvent, et puis oublient. Je suis dans la vie comme dans mes rêves. Sans trêve, je voudrais que crèvent tous les artifices pacifistes. Je n'en suis pas moins en colère. J'aimerais bien que la chair se rebelle à la terre. Je rêve que les rues d'Hollywood se fendent en deux. Les stars au coude à coude et les pauvres au milieu. Plus rien sur la montagne, des espoirs démentis. Plus rien que la complainte pathétique des nantis. Je rêve tous les soirs quand je suis dans mes songes. Les visages émaciés qui s'en vont vers les tombes. Les fantômes obscurs, des rues sans objectif. Les rêves à la chaîne d'un beau pays fasciste. Il y a dans les yeux toujours un peu d'espoir. Je veux dans le noir y croire, toujours y croire. Même les chiens n'en peuvent plus d'obéir à leur maître. Je ne serai jamais à eux. Ce matin il fait beau et je signe avec mes doigts. Le sang d'hier qui sèche vivra à travers moi. Et toi, nous irons danser comme tous les samedis. Je ne pense qu'à rêver. Que les étoiles oublient quand les cœurs et les corps sont au même BPM. Je m'oublie et puis j'oserai te dire que je t'aime. Dans mes rêves, ils ont tout pris, tout pris. Le monde crève, mais on sourit. C'est un rêve.
Hello.
Ça va?
Ça va.
Bon, je vous rassure, après, j'arrête de répéter tout ce que dit Isia Higelin. C'est une maison à Pantin, au nord-est de Paris. On va en gravir un étage pour arpenter des pistes, les pistes, d'une chanson qui ouvre Citadelle, le dernier album d'Isia. Le disque a paru il y a un peu plus d'un an. Il a été produit et co-composé par Bastien Burger. On est tous les trois devant un ordi. Venez. Entrez dans les coulisses de cette chanson qui évoque Higelin Jacques, le titre c'est Dragon de métal.
Parce qu'en fait mon père est dragon de métal, tout simplement, dans l'astrologie chinoise. C'est aussi bête que ça. Et il était attaché aussi au fait que moi je sois cheval de métal. C'était quelque chose qui était très important pour lui. Et c'est un souvenir que je garde très profondément de lui, qu'il le dit beaucoup, qu'il en parle beaucoup, comme quelque chose d'important, quoi. Donc ça le définissait vraiment. Mais mon père n'avait aussi rien d'un dragon. Il était plutôt un très gentil dragon. Elliot le dragon, par exemple. Mais c'est vrai qu'il pouvait avoir ça sur scène, très fort.
Dragon de métal, ensemble maître du temps. Sauveur de l'ennui, je te regarde, tu me comprends. Tes mots, tes rires, tes gestes, plus doux que n'importe quel soir. M'enveloppe et me protège, talisman contre moi.
Tant, tu me manques, tant, tant, tu me manques, le temps nous manque tant.
vous associe énormément à la scène. Mais travailler en studio, rechercher des sons, c'est un truc que vous aimez ?
Pas trop. Je vais être honnête avec vous. Parce que j'ai une patience très limitée dans un studio. J'ai tendance à commencer à tourner très vite comme un lion en cage. Voilà, Bastien a une patience qui dépasse l'entendement. Il peut passer, je pense, 12 heures d'affilée dans son studio. Et c'est ce qui crée, je pense, l'harmonie de notre duo aussi. Voilà, moi, je peux avoir 3-4 heures de concentration, je dirais, un truc comme ça. Et puis après, j'ai du mal à entendre. Pendant un moment, j'avais longtemps un complexe, un peu de ça.
C'est-à-dire ?
Moi, je me disais que je m'acharnais pas assez, que je bossais pas assez, que j'étais pas dans un truc comme ça. Et Bastien m'a beaucoup décomplexé avec ça, justement, de par notre travail, en fait, de dire que mais on n'est pas tous égaux, en fait, face à la patience. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une notion du travail de l'artiste, vachement à l'américaine, qui commence un peu à rentrer un peu dans les mœurs, de dire il faut être au studio night and day, non-stop, fournir du son au kilomètre, dans un truc comme ça. Mais moi, c'est pas du tout ma manière d'aborder les choses, et ça fait pas de moi moins... une artiste ou moins quelqu'un qui travaille, en fait. J'ai choisi aussi cette vie parce que c'était une vie douce et tranquille avec un rythme que je m'impose à moi-même, en fait, sans...
C'est étonnant d'entendre dire que la vie de musicienne, d'artiste et de chanteuse, c'est une vie douce et tranquille.
Moi, du fait de vivre de ma passion et de pouvoir choisir mon rythme de vie, je trouve qu'il n'y a rien de plus doux et tranquille. C'est tellement une chance de pouvoir décider l'heure à laquelle tu travailles. Enfin, je veux dire, c'est le luxe absolu, en fait, la liberté du temps, pour moi. Je veux dire, on est très peu à avoir cette chance de pouvoir décider de son temps. C'est ça qui est doux et tranquille.
Dragon de métal est une chanson qui est née il y a 3 ans, simplement avec ses quelques accords au piano. Et puis, avec la production de Bastien Burger, cette intro-là, avec cuivre et vent, fut ajoutée au morceau.
On a enregistré ça au studio Pigalle. Et du coup, t'es là et en fait, tu te prends une ivresse incroyable, en fait, si tu as à mettre le truc en espace.
Et c'est l'ouverture de l'album. On l'a su tout de suite, on l'a décidé tout de suite. On s'est dit, c'est le morceau qui va ouvrir l'album. On va faire une grande ouverture comme ça.
Là, le soleil se lève, quoi.
Voilà, c'est exactement ça. C'est ça. C'est le lever du soleil.
Est-ce que quand vous écrivez une chanson, quand vous avez un texte ou une musique en tête, vous avez des images en tête ?
Oui, par exemple dans le pont de Dragon de métal, plein de petites flûtes, de petits violons, voilà, des petites choses comme ça qui volent un peu partout, quoi. Et c'est clairement mon père, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ces petits grains de folie, c'est ces petites choses que... Malheureusement, nous sommes à la radio, on ne peut pas voir tout ce que je fais avec mes mains, mais c'est...
Mais ça virevolte, ça fait plein de ronds.
Ça virevolte, voilà. Et ça virevolte comme des petites flûtes, ça virevolte comme des petits... Et voilà, il y a beaucoup de lui aussi.
Ça fait vraiment feu follet, on va dire.
Oui, feu follet, voilà.
Vous écoutez Pop & Co, vous entrez dans les coulisses d'une chanson d'Isia, le titre, c'est Dragon de métal, et dans la chanson, ce personnage invincible... C'est Jacques Higelin.
Il y a aussi pour moi un autre élément qui fait l'identité du morceau, c'est quand la batterie arrive.
Et c'est vrai que là d'en parler en fait et de tout réécouter, c'est un morceau très solennel, très à l'image de tout ce qu'il était, de tout ce qu'il est, de ce que représente son départ. Donc le petit tambour d'une marche aussi peut-être funèbre ou quelque chose comme ça. Il y a aussi ça dans ce morceau. Il représente aussi, comment on dit, une
élégie.
Une élégie. Voilà, pardon. Une élégie, je préfère une élégie. C'est un peu...
C'est éloge, ouais, élégie.
C'est ça, exactement. Ça représente un peu tout ça à la fois, ouais, c'est vrai.
Est-ce qu'on peut écouter la voix seule ?
Oui.
Ton cœur comme un soleil irradie autour de toi.
Bastien m'a vachement drivé sur ma manière de chanter.
Ta liberté souveraine accompagne mes peurs.
M'a beaucoup appris en fait aussi à poser ma voix, Quand je faisais du rock, j'étais en totale liberté, enfin je faisais absolument tout ce que je voulais. Et puis maintenant, c'était plutôt mettre l'émotion dans la voix avec la langue française. Donc ça a été une étape aussi. En fait, je suis pas du tout trop un animal sauvage. C'est aussi comme dans le cinéma. J'ai appris ça aussi dans le cinéma. Je pense à être dirigée. Et c'est vrai que j'avais jamais été dirigée sur ma voix aussi. Et ça, j'ai adoré ça. C'est vrai, c'est comme quand un réalisateur te dit « Bon, bah, tu vas m'en refaire une, mais un peu plus comme ci, un peu plus comme ça. » Mais en fait, c'est génial de chercher comme ça. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas eu avant.
Tant, tu me manques tant, tu me manques, le temps nous manque tant, tu me manques tant. Cheval de métal, étourdi dans les vents.
J'ai fait l'album pendant que j'étais enceinte et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je pouvais plus trop chanter parce que j'avais plus vraiment la même voix. Donc j'ai fait des prises avant. Mais à la fin, j'étais rentrée dans une espèce de folie, quoi. Je voulais tellement que ce soit parfait. Je voulais tellement que l'émotion transmise à papa, elle soit le plus juste possible, le plus sincère. J'avais jamais l'impression que c'était assez bien, que je faisais assez la bonne prise, que j'étais assez à la hauteur. Et puis, là, je les entends particulièrement, les qui sont vraiment des râles de détresse, en fait, de peine, quoi, vraiment. Il y a ce petit jeu de mots, enfin voilà, tant tu me manques tant tu me manques, le temps nous manque tant. Parce que le temps nous manque, quand il a commencé un peu à disparaître d'une certaine manière, j'avais 25 ans, et il est mort quand j'en avais 27, donc c'est jeune quand même. Et c'était, avec moi, il voulait toujours que je le voie au mieux, il voulait jamais me décevoir de quelque manière que ce soit. Et donc c'est vrai qu'on n'a pas eu la chance d'avoir ces discussions d'adultes que tu as avec tes parents quand tu deviens adulte, les uns et les autres. On n'a pas eu des discussions où j'aurais pu le convoquer à certains endroits, où j'aurais aimé avoir des réponses à certaines questions, en savoir plus sur certaines choses. Toutes ces conversations d'adultes, entre guillemets, que tu as la chance d'avoir avec tes parents quand tu deviens toi-même un adulte. Voilà, ça, c'est des choses qui vont me manquer. Et puis le fait qu'il ne voit pas notre enfant, le fait, ce genre de choses pour moi. Même s'il existe énormément dans sa vie, par la pensée et le cœur, on parle souvent de lui et tout ça. C'est du temps qui va nous manquer, voilà.
Cette chanson, elle ramène aussi plusieurs années en arrière. Parce qu'elle ouvre un album qui est apparu il y a plus d'un an, en 2019. Mmh. Et elle a donc été écrite encore avant. Comment votre histoire a évolué avec ce titre? Est-ce qu'il y a eu une évolution dans votre rapport avec cette chanson ou c'est intact?
Franchement, c'est intact. Surtout celui-ci. Honnêtement, je pense que jamais j'aurais pu dire ça d'un morceau, mais pour moi, il est parfait. Non, c'est vraiment c'est le morceau dont je suis le plus fière de ma vie. Ça peut paraître prétentieux, mais ça ne l'est pas du tout. C'est vraiment de la fierté, du travail bien fait d'un artisan, je sais pas comment dire. Tu te disais, quand je l'écoute, je suis en rêve, les écouteurs, je fais putain, mais on l'a fait quoi. Tout le sens qu'il a. J'ai pris des mots de papa dans ce texte aussi. Des mots qu'il aimait, des mots qu'il a employés auparavant, dans ses chansons. Il y a beaucoup de mots à lui.
Dans le cas présent, ce seraient lesquels?
Bah, il y a soleil, ton cœur comme un soleil, irradié. Je me la remets dans la tête.
Quel titre d'un album?
Voilà, une chanson qu'on a beaucoup chantée ensemble sur scène. Et puis il y a surtout la fin, où je dis...
Dis-moi où vas-tu, mon amour absolu.
Et c'est ce que lui dit dans Balade pour Isia.
D'où viens-tu? Ô ma tendre merveille, mon amour absolu, bercé par les sortilèges et les rêves étoilés, sous le grand manège enchanté. Thank you.
dans Balade pour Isia et dit « Dis-moi d'où viens-tu, mon amour absolu ?» Voilà, moi je lui demande où il va. Voilà, donc c'est une manière de...
C'est une correspondance. Voilà. Vous parlez par chanson interposée.
C'est ça.
Il y a une dernière piste que j'aimerais qu'on écoute, c'est la basse.
Mmh. Ah bah Bastien va vous faire une... c'est plaisir de faire écouter sa basse.
C'est vous qui jouez de la basse, là, Bastien ?
Oui. Mmh. Et il a fait évidemment toutes les basses de l'album. Elle groove. On parle de ta basse.
Je me suis vraiment calé sur le groove de batterie qu'on a écrit ensemble, des valeurs de notes assez courtes, pour apporter justement un truc un peu en contrepoint, même en termes d'intention, par rapport aux voix qui sont dans ces espèces de trucs de spirale ascendante, et là où justement je voulais des valeurs courtes, et un truc qui tienne un petit peu la baraque, quoi, de façon un peu premier degré.
Non mais c'est ça qui est dans le morceau aussi, que je trouve d'une certaine parfaite, c'est sa balance en fait, entre le côté très aérien, et le côté très groove, en fait. On est dans l'air et en même temps hyper dans la terre, et voilà, ça...
Entre le ciel et la terre.
Ouais, sur la terre comme au ciel, tête en l'air, amoureux, on l'a fait, l'interview est terminée, Rebecca, c'est, vous pouvez pas mieux faire. Voilà.
Bah ouais, c'est fini.
C'est exactement ça, tu as raison, sur la terre comme au ciel, tête en l'air, amour.
Citadelle, c'est le titre du dernier album d'Isia, produit et co-composé avec Bastien Burger. La Pop & Team, c'est Coy Nguyen qui a réalisé cette émission avec Tiffany Battistel ce matin. C'est Ilinka Negulesco et Stéphanie Valois qui ont préparé l'émission. Et c'est JB Audibert qui participe copieusement à la programmation musicale. Samedi prochain, il sera à nouveau question de Bossa Nova, puis il y aura un Pop & Co Gainsbourg, puis il y aura un Pop & Co Massive Attack, et puis Nino Ferrer, enfin, voilà le programme.